Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 61, ici Richard Delhomme. Dans cet épisode, je reviens au gravel, enfin, et aux fondamentaux pour préparer une épreuve, et pourquoi pas, préparer sa première épreuve ultra en gravel. Comment rouler avant? Quel matériel emporter? Comment et quoi manger? Quel éclairage? Quels vêtements? Pour répondre à ces questions, j'ai demandé de l'aide à Julien Conan. Julien fait partie de l'équipe organisatrice du Vélo Vert Festival, lequel accueillera en septembre deux épreuves non chronométrées, gravel et bikepacking à la cool. Avant de lancer l'épisode, j'aimerais passer le bonjour à David, le trailer art des choix, ainsi qu'à toi, le nutritionniste trailer de Metz. Ceci étant dit, sans plus attendre, Julien Conan.
Allô?
Allô Julien, ça va?
Salut Richard, ça va et toi?
ça va mieux en tout cas. Parce qu'on a quand même eu beaucoup de mal à savoir tous les deux et ça a été un chemin fait d'embûches, de péripéties et de petites aventures.
Tout à fait. C'est donc, du gravel quoi, c'est ça?
ouais, si on veut, voilà, c'était plus des emmerdes que du gravel. Mais le pire, ouais, ça a été vraiment mardi, tu sais, on avait rendez-vous à 18h et il fallait absolument que je reparte parce que je partais récupérer mon ordinateur là où je l'avais oublié en week-end et je voulais absolument être à 18h, 17h45 là-bas pour vite brancher mon bazar, faire l'épisode avec toi. Et finalement, en partant, j'avais oublié de remettre de l'essence dans la voiture, j'avais plus de barre énergétique. Et enfin, arrivé sur la route d'Orléans, je me suis rendu compte que j'avais oublié les blocages rapides de mes roues, donc il a fallu que je retourne à la maison. Et entre-temps, j'avais un message de ta part me disant « Je suis coincé en réunion, je ne pourrai pas ». Donc ça m'a arrangé.
Bon, ok.
Donc,
que de péripéties, en effet.
Ouais. Bien, et toi?
Écoute, ça va, on avance, enfin, que ce soit sur l'événement, après sur nos activités médias aussi, ça va bien. Ouais. Côté santé, tout le monde va bien aussi, donc c'est l'essentiel. Et puis, vu qu'on peut remettre le nez dehors, ça fait du bien.
Ça fait du bien, mais on va en parler, ouais. Donc, avec toi, on va parler du Vélo Vert Festival, on va parler évidemment de l'épreuve Gravel Ultra et de la bikepacking, que j'ai décrite comme étant bikepacking à la cool, hein, d'après ce que j'en ai compris. On va reparler de ce qui fait la spécificité de ces deux épreuves, comment s'y préparer, autant au niveau physique qu'au niveau matériel. Parce qu'il y a quelques... Comme elle a un format un petit peu exotique, ça demande un équipement un petit peu différent que si on partait à 7 ou 8 heures du matin en plein été. Donc là, même si on va partir en plus en septembre, donc ça change encore plus la donne. Et puis, on va parler... c'est déjà pas si mal que ça. Mais avant ça, sachant que tu es un cycliste émérite, Julien, qui es-tu? D'où viens-tu?
Qui suis-je? Julien Conan, j'ai 32 ans maintenant, originaire de Bretagne, entre Saint-Brieuc et Paimpol, à Plouha en l'occurrence, là où il y a eu de nombreuses Coupes de France de VTT, cross-country et même de descente. Je suis au sein de la société Chlorobike depuis maintenant quasiment 10 ans. Donc Chlorobike, c'est les médias avec Vélo Vert Magazine, mais aussi trois sites web. Et puis c'est également de l'événementiel avec les élections du VTT de l'année et le Vélo Vert Festival. Et là, en l'occurrence, aussi le Gravel Hutchinson.
À titre perso, là, j'ai vu que ta pratique cycliste a beaucoup évolué. Parce qu'en fait, je cherchais une photo pour l'épisode, pour la couverture de l'épisode, et ça remonte très loin. Et j'ai vu des photos de toi en cyclocross. Après, on te voit sur la route, on te voit en VTT. Et dernièrement, on a pu admirer, en tout cas moi, j'ai pu admirer ton gravel, qui est extrêmement beau. même s'il ressemble au vélo de Guilet Bontuyau.
Non, bah c'est vrai qu'après
ça a beaucoup changé quand même.
Ouais, je suis un peu un touche à tout. C'est mon père qui m'a mis sur un vélo depuis tout petit. J'ai commencé la compétition en minime en trophée régional des jeunes vététistes, qui est une super école du vélo et du VTT en général. Et après, je me suis plus spécialisé sur le cross country jusqu'en espoir espoir 2, espoir 3, où j'ai eu un bon niveau national. Et puis après, bah, c'est vrai que j'ai fait quelques piges sur route, mais avec les stages, l'école et puis le boulot, après, c'est vrai que je faisais des saisons relativement courtes. Puis je me suis un peu essayé aussi au cyclocross parce que c'est un effort qui me plaît, les efforts intenses. En Bretagne, on a une grosse culture du vélo et puis bah, également du cyclocross. Donc quelques petites piges là-dessus. J'ai fait pas mal de single speed aussi. J'ai été piqué par le virus single speed VTT, donc j'ai deux titres de champion d'Europe. Alors c'est anecdotique et puis ça reste une discipline en marge aussi, mais c'est toujours dans une ambiance sympa, un effort que j'apprécie aussi, qui est particulier. Et puis un championnat du monde aussi à Ballyhoura en Irlande qui était vraiment sympa. Et depuis peu, bah, c'est vrai que le gravel me plaît bien. Moi, à travers nos activités pro, c'est vrai qu'on côtoie cette discipline et cette pratique. Et puis cette année, j'ai passé le pas en montant un petit vélo aussi, en me faisant plaisir et avec des accessoires aussi un peu connotés VTT. Donc c'était tout l'intérêt. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet un peu de s'évader. On retrouve aussi les sensations du VTT. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Et notamment, je suis en région parisienne, donc je trouve que c'est vraiment le vélo idéal à la fois pour vélo taffé, pour s'amuser le week-end, et puis même pour se tirer la bourre aussi.
Il fonctionne bien pour se tirer la bourre. Je reviens sur le.
Ça a coupé. Tu m'entends?
Ouais,
c'est bon. En plus, on se voit, c'est encore mieux.
Ouais, oui, moi je coupe parce que là, je me suis levé à 9h quand même, donc c'est pas. C'est
ah,
pas
moi, très... je peux pas avoir cette capi. Enfin, cette coupe-là, je peux plus l'avoir malheureusement.
Ah, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même coiffure tous les deux, mais ouais, moi je laisse pousser sur le dessus parce que, comme dit ma femme, je ressens quand je sors de chez le coiffeur, elle est très court sur les côtés, avec ma touffe sur le dessus, elle me dit que je ressemble à un footballeur de 20 ans. Alors que j'ai juste 20 ans de plus, mais à part ça, ça va.
T'as raison.
Bon, je coupe la caméra.
Ça marche. J'en fais de même.
Voilà. Est-ce que tu peux revenir sur les championnats du monde, sur ta pratique de single speed, parce que c'est quand même, comme tu disais, à la fois aussi anecdotique, mais aussi un petit peu exotique comme pratique. Qu'est-ce qui change? Pourquoi se mettre dans cette pratique?
Alors pourquoi? Enfin, moi, c'est assez simple. C'est arrivé dans une période où je faisais un petit peu moins de compétition. Je voulais me faire plaisir et à proximité de chez moi, j'ai quelqu'un qui pratiquait déjà depuis longtemps, qui avait un Sun BMX, enfin qui roulait déjà avec un Sun BMX et puis qui était proche de la communauté single speed en France. Et puis il m'a dit tiens, tu devrais t'essayer à ça. Donc je me suis monté un vieux vélo que j'avais dans le garage et puis on est parti. Du coup, c'était en Belgique à l'époque avec c'était l'équipe de Single Speed Belgique et David Maricou là qui organisait les championnats d'Europe. C'était à Maredsous et du coup, je me suis prêté au jeu et puis après, je restais aussi de façon toujours compétitif et puis avec une âme de compétiteur. Donc moi, j'y suis allé forcément pour la gagne, même si c'est pas l'esprit à la base. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de découvrir un autre aspect du vélo qui est toujours sympa dans le partage avec une bonne ambiance, sans se prendre la tête. Et comme je disais, moi, c'est un effort que j'apprécie parce qu'il faut quand même savoir lisser son effort, pas monter trop dans les tours parce que sinon, on est vite asphyxié dans les montées. Et puis, il faut vraiment jouer avec de la force, de l'hypervélocité. Enfin, voilà, je trouve ça intéressant. Je me suis prêté aussi au jeu de m'aligner sur le Grand Raid Cristal en Suisse avec ce même vélo, sur d'autres compétitions régionales aussi. Et puis, c'est toujours un petit challenge en plus. C'est sympa.
Là, en fait, tu vois, moi, à titre perso, je suis en train de changer complètement ma pratique parce que depuis 2 ans, je suis plongé à fond dans le gravel. Avant, je faisais exclusivement de la route. Et va savoir pourquoi le gravel m'a happé et j'ai jamais remis les fesses sur mon vélo de route. Et là, je vais recevoir un VTT également, donc je suis en train vraiment de faire la transition vers le tout-terrain. Et je vais également monter mon vélo de route en pignon fixe. Et je me dis, mais est-ce que la route va vraiment me plaire à nouveau avec un pignon fixe? Est-ce que tu ferais pas mieux carrément de te monter un gravel pignon fixe? Ce qui pourrait être extrêmement drôle. La question que je me pose, c'est comment tu gères les montées et surtout les descentes qui sont, par chez moi, extrêmement courtes mais extrêmement pentues. Donc comment on gère justement ce contrôle du vélo, du freinage, etc.
Alors après, c'est deux choses différentes. Moi, c'est vraiment du single speed, donc ça veut dire que j'ai une roue libre. Donc c'est pas du pignon fixe. C'est toute la nuance. Et puis là, c'est vraiment adapté à une pratique VTT. Du coup, donc ça permet de garder les manivelles parallèles en descente, enfin, d'avoir un comportement en descente plutôt classique. Et c'est vrai que je me suis jamais prêté au jeu du pignon fixe. J'ai des copains qui en font beaucoup l'hiver, comme ça se faisait dans une autre époque, et ce qui est assez bénéfique hein, pour les routiers. Maintenant, c'est vrai que je me suis jamais prêté au jeu du pignon fixe. Moi, je préfère garder le côté aussi ludique en descente, et je pense que, enfin, perso, moi, je le perdrais un peu avec le pignon fixe.
Ah ouais. Et ben là, tu viens d'apporter une petite brique à ma réflexion, parce qu'effectivement, sur la route, pignon fixe, c'est pas un problème. Mais en chemin, il va peut-être quand même falloir plutôt prendre un petit peu de roue libre, sinon ça sent la gamelle assurée quand même tout ça.
Oui, en VTT, je pense que ça n'apporte pas, enfin, ça ne va pas t'apporter. Ça va apporter plus de contraintes que de.
Ouais. Que de points positifs. Et sur la route, ça apporte quoi? Parce qu'on en parle souvent. Il y a plein d'épreuves. Enfin, j'ai interviewé des mecs qui ont fait la transcontinentale en single. Comme tu disais, c'est une pratique ancestrale. Et on en parlait il n'y a pas longtemps avec Jérôme Cousin. C'est la fameuse réplique d'Anguillin Lambert. J'ai fait 1000 bornes sur un 42-16. Ça apporte quoi le pignon fixe?
Après, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Je pense que c'est un autre effort et c'est pour ça que souvent les routiers en font l'hiver sur leur période de foncier quand ils font du volume. C'est que ça permet de garder un rythme assez constant, de travailler la puissance et la force dans les montées, l'hypervélocité derrière aussi dans les descentes. Donc voilà, c'est travailler un peu toutes les phases du cyclisme, mais tout en restant sur un rythme, plus sur le foncier, quoi. Donc je pense que ça peut apporter. Après, faut aussi faire attention aux articulations, notamment dans les descentes. C'est pour ça qu'on voit que maintenant, l'essentiel de ceux qui font du pignon fixe, sauf en ville, hein, mais mettre également un frein avant pour un peu aussi se ralentir et éviter justement de trop forcer sur les articulations pour ralentir le vélo en descente.
Ouais. Pour ceux que ça intéresse, et si ça t'intéresse également, je recommande à tous de foncer en librairie et d'acheter le dernier numéro d'une revue très ancienne qui s'appelle Sport et Vie. Et il y a un article consacré justement à la piste. Donc là, c'est pas le pignon fixe, mais c'est à la piste, donc par extension pignon fixe. Et le numéro précédent explorait le cyclocross, donc pourquoi les coureurs issus du cyclocross sont aussi forts maintenant sur la route. Et il y a dans le dernier numéro la même chose, mais avec les coureurs de piste. Donc Egan Bernal, un autre Colombien qui déchire fort. Et un mec de l'équipe d'Angleterre expliquait que lui, dans un peloton, il est capable d'entendre un mec qui a fait de la piste dans sa jeunesse ou pas au son que fait son pédalier. parce que il va avoir un mouvement beaucoup plus régulier, beaucoup plus fluide, alors qu'un mec qui n'aura pas fait ça va avoir un mouvement beaucoup plus haché, un petit peu. Et c'est hyper intéressant à lire, donc j'encourage tout le monde à aller lire ça. Également sur le gravel, tu disais tout à l'heure que c'est un entre-deux finalement. Qu'est-ce qui change par rapport à toi entre la route, bon, le cyclocross évidemment, mais et le VTT, comment se fait-il que ce soit un entre-deux aussi intéressant pour toi?
Ce qui est particulier avec le gravel, c'est qu'on voit il y a tout profil de gravel. Ce qui est intéressant de voir là sur les différentes communautés, c'est que on voit certains qui ont des gravels hyper compétitifs qui vont se rapprocher un peu des vélos de route, tels que le mien ou même que du tien du coup. Et des personnes qui vont aussi partir plutôt d'une base VTT parce qu'ils vont plutôt avoir une pratique un peu plus engagée, différente. Je sais que moi, l'intérêt que je trouve avec le gravel, c'est à la fois de pouvoir faire de la route, mais même très peu, et puis surtout après tout ce qui va être de la voie verte ou de la piste forestière. Donc des choses pas très cassantes. Moi, c'est plus mon approche du gravel. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et moi, c'est plutôt lié au montage que j'en ai fait aussi. Mais après, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment qu'il y a l'entre-deux, puisque il y a le côté longue distance. Tu peux déjà parcourir un peu plus de kilomètres. Et puis, tu as aussi le côté un peu technique. Et puis, tu reviens un peu à l'essence du VTT aussi, tout en rigide. Donc, faut rester attentif à tous les mouvements de terrain, à toutes les petites pierres aussi pour éviter les crevaisons, les racines. C'est revenir un petit peu aux sources finalement du VTT. Et puis, derrière, ça permet de travailler des choses en termes de technique. C'est intéressant.
Et dans la communauté VTT que tu côtoies de très près avec Vélo Vert et Chlorobike, c'est comment est vue l'arrivée de cette forme de vélo?
Je pense qu'elle est plutôt bien vue et que ça correspond aussi justement au profil des VTTistes, notamment après on le verra aussi dans les prochaines années, mais peut-être aussi sur l'approche de la pratique hivernale où des fois il est plus compliqué, où c'est quand même moins sympa d'aller rouler dans les bourbiers. Je pense à la Bretagne, forcément il pleut peut-être un petit peu plus que dans d'autres régions, donc c'est pour ça que j'y pense. Mais et puis on se rapproche de la pratique un petit peu cyclocross aussi, et du coup ça permet de garder un aspect ludique à la pratique tout en faisant aussi un petit peu de route à côté et de travailler le foncier. Donc je pense que c'est vraiment une pratique qui plaît et qui a été bien acceptée, parce que il y a aussi cette connotation comme je disais ludique, le fait d'aller dans les sentiers aussi.
Ouais. Tu vois, là, dernièrement je roule avec un excellent VTTiste donc à côté de Chartres, et on s'est rencontré sur la route. C'est un très bon VTTiste, et comme il voyait que je faisais beaucoup de gravel, il m'a dit attends, je vais prendre mon cyclocross et je vais venir avec toi. Et il m'a dit, on a pris des chemins vraiment extrêmement roulants. Il m'a dit, putain, ici avec un VTT ça serait vraiment nul, ça serait l'ennui total, mais avec un gravel c'est hyper agréable. Et ça confirme exactement ce que tu viens de dire, c'est un entre-deux où un VTT ne serait pas du tout adapté à ces chemins, parce qu'on roule à 27, 28, 30 à l'heure sans forcer. Et par contre, avec un VTT, on se traînerait. Donc c'est vraiment très très agréable, je trouve, cet entre-deux finalement. Et c'est les différentes disciplines qu'on va pouvoir croiser les unes les autres, la route, le VTT, et rajouter cette petite couche de gravel par-dessus qui vient lier les deux, c'est très cool. T'en penses quoi ?
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Et la preuve en est, il y a 3 semaines, je me baladais un peu en région parisienne dans un sous-bois, et puis je suis tombé sur un groupe de 3 VTTistes, un groupe d'amis, et qui roulaient justement sur sur une partie, mais qui n'est pas trop accidentée, et qui roulaient bien en gravel. Ils étaient surpris déjà de voir que je les suivais, et de voir qu'on pouvait faire ce genre de choses avec ce vélo qui, c'est vrai, d'aspect ressemble à un vélo de route finalement.
C'est vrai que là, le tien, avec les pneus que tu as mis, avec les overrides, c'est vrai qu'il est, il fait très route avec des très gros pneus, mais par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Pourquoi, on va revenir un instant sur ton vélo et après on va partir sur le Vélo Vert Festival. Déjà, t'as quoi comme vélo?
Donc là, moi, c'est le Scott Addict Gravel 10 que j'ai monté donc avec des composants Hope en parallèle de ça. Donc que ce soit les roues, le pédalier, les freins. Après, donc avec le groupe GRX, sinon, et puis voilà, des petits à côté. Et puis oui, en termes de pneumatiques, avec le Chinson Override pour le moment. Et puis on va essayer de passer parce qu'on m'en a dit du bien. Sur la nouveauté Hutchinson avec le Touareg, peut-être pour passer déjà en 40 et puis avoir un petit peu plus de crampons pour faire déraper un peu plus tout ça.
Ouais. Oh, il dérape bien déjà le Override. Je les avais à la Gravel Rock dans les derniers sentiers avec beaucoup de sable, ça dérapait un petit peu. C'était assez marrant. Pourquoi t'as choisi Hope? C'était un, comme tu le disais tout à l'heure, c'était un petit clin d'œil au VTT en fait, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. Sachant que sur les vélos que j'ai pu avoir dans le passé, je roulais surtout sur du Hope Mono Mini et puis là c'était le clin d'œil. J'avais déjà vu aussi le vélo de Rachel, donc qui est une chargée de communication au sein de chez Hope. Monter avec justement frein, pédalier un peu couleur purple, et c'est vrai que ça m'a donné envie, c'était sympa.
Juste une question bête, autant les roues, le pédalier, bon je peux comprendre, mais pourquoi changer les freins qui sont des Shimano GRX au profit des Hope? Qu'est-ce que ça t'a changé en fait?
J'ai pas eu l'occasion de tester les étriers GRX. Là, moi, l'intérêt, c'était justement d'avoir une cohérence sur le montage des éléments Hope. Le fait de pouvoir personnaliser aussi les étriers et les capsules en purple. Et parce que j'en avais eu un très bon retour aussi chez Anaël, qui est l'un de nos testeurs suisses, nos testeurs fous, avait eu l'occasion de les tester et m'en avait fait un excellent retour. Donc voilà, c'était l'occasion. Et puis c'est vrai qu'à 4 pistons, il y a une puissance qui est quand même assez phénoménale. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment de piloter le vélo avec un seul doigt aussi, que ce soit sur les cocottes ou en bas du cintre. Et même si les étriers GRX le permettent déjà, mais là au moins je trouve que voilà, c'est davantage rassurant. Et puis là, c'était le petit côté esthétique également.
Ouais. Là, tu disais sur les étriers Hop 4 pistons, c'est combien sur le GRX?
Tu me poses une colle, j'en ai, je ne sais même plus.
Ça sera l'occasion.
Non, mais c'est deux hein, simplement.
Ouais.
Je crois.
D'accord. Bon, si on parlait du Vélo Vert Festival, comment vous est venue l'idée d'organiser donc le Vélo Vert Festival pour... Est-ce que tu peux d'abord me donner une idée de contexte combien, beaucoup de monde, quel type d'épreuve, histoire qu'on ait un petit début de contexte sur la taille de l'événement?
Alors, le Vélo Vert Festival, donc c'est un événement organisé par Vélo Vert, du coup, qui a lieu à Villard-de-Lans. Donc initialement premier week-end de juin, mais pour des raisons exceptionnelles cette année il sera organisé le dernier week-end de septembre, donc du 24 au 27 septembre, et c'est un événement qui va fêter sa 11e édition déjà, 7e sur Villard, qui est bien implanté dans le massif du Vercors, qui est vraiment un territoire exceptionnel en termes de pratique, que ce soit de VTT mais aussi et plus particulièrement de gravel. On pourra en parler un peu plus tard. Et le principe de cet événement, c'est un événement grand public, axé VTT, mais on peut aussi tester des gravels. Donc avec un salon, il y a 300 marques présentes sur lesquelles on peut tester du matériel. Et c'est tout l'intérêt de cet événement, c'est vraiment qu'on a une dizaine de parcours dédiés. Donc ça va de la descente, de l'enduro, des parcours gravel aussi, des parcours typés cross-country, VTT assistance électrique pour les novices, pour les plus confirmés. Où là, vous arrivez sur le stand, vous demandez à la marque le vélo que vous souhaitez tester, si vous êtes dans une intention d'achat, si vous voulez faire des comparatifs, voilà, c'est tout l'intérêt. Et en parallèle de ça, donc on a également des activités, et des épreuves chronométrées et non chronométrées. Donc ça va vraiment des épreuves internationales comme la Coupe du Monde MTB Eliminator, à des challenges famille ou des randonnées nocturnes. Donc en tout, là, c'est pareil, c'est une dizaine d'épreuves en tout sur l'événement.
Il me semble qu'il y a même des épreuves nocturnes urbaines.
Oui, tout à fait.
Ça,
Alors,
c'est
bon,
vraiment
c'est
cool.
vrai que la programmation est très riche avec le vendredi. Donc, on a l'enduro, on a une rando all mountain aussi avec davantage de dénivelé négatif que de positif. On a donc une randonnée nocturne. Le samedi, c'est plus la dynamique enfant et cross-country avec le marathon series UCI 70 km, donc en format chrono-rando. On a une autre course et rando de 40 km. On a des courses enfants également. Et puis la street race en fin de journée, qui est une épreuve qu'on a créée, qui est qui se veut vraiment ludique, festive, qui est un relais par équipe de deux sur 1 heure. Mais l'originalité, c'est que depuis l'année dernière, on a mis des cartes à tirer. Qui donne droit à des options, donc c'est-à-dire c'est soit on a le droit à un tour gratuit, donc c'est ce qu'on appelle l'escargot, soit c'est la carte noire, donc le relayeur ne peut pas passer le relais à son collègue et doit refaire un tour. Et on a aussi, par exemple, la machine à laver, donc c'est-à-dire qu'on a un couloir avec de la mousse et le concurrent est obligé de passer dans ce couloir-là. Donc voilà, c'est des petites choses un peu rigolotes et festives et qui collent bien à l'image du Vélo Vert Festival.
À l'instant, tu évoquais les circonstances exceptionnelles qui vous a touché, mais qui a aussi touché toutes les organisations du monde. Comment vous avez géré d'abord l'éventualité d'un report, puis finalement l'annulation, et enfin un report, sachant que vous, Villars, vous avez une vraie problématique, c'est que Villars est une ville qui va accueillir le Tour, je crois, tu m'avais dit, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, enfin, c'est vrai que nous, comme tout organisateur, comme toute entreprise, forcément, on a été un peu pris de court. On a dû prendre les devants assez rapidement. C'est-à-dire que au tout départ et les premières semaines, on envisageait un plan B de report. Et puis, plus les semaines avançaient, plus on se disait, bon, de toute façon, début juin, il sera compliqué, voire impossible d'organiser quelque chose, puisque déjà dans un premier temps, on prenait du retard aussi, nous, sur des phases logistiques. Et puis, au niveau préfectoral, il aurait été impossible de pouvoir organiser un événement d'une telle ampleur. Donc, très vite, on a engagé les discussions avec le territoire, donc que ce soit avec Villars, les élus, mais aussi d'autres acteurs locaux, puisque un changement de date va impliquer beaucoup de changements, que ce soit avec les prestataires, les élus. Les organisations de chasse aussi, enfin tout ce genre de petits détails qu'on voit pas lorsqu'on est au cœur d'un événement. Et l'autre composante, c'était également le Tour de France, puisque initialement Villars devait accueillir donc une arrivée le 14 juillet, donc au balcon Côte 2000. Et du coup, c'est vrai que tant que le Tour de France ne s'était pas positionné sur son report, il était compliqué pour nous et surtout pour Villars, qui devait s'organiser en interne, nous d'évoquer une date. Donc, ça a pris un peu de temps. Nous, par contre, enfin, dans notre tête, il était exclu entre guillemets d'annuler l'événement. On voulait vraiment le reporter. Déjà, enfin, il y a aussi des raisons économiques, hein, que ce soit pour le territoire, mais aussi pour nous, parce que on sait que justement la saison en termes de pratique et pour les pratiquants était aussi amputée de beaucoup de dates et que les gens ont besoin de pratiquer et ont cette envie de pratiquer. Donc pour nous, on voulait vraiment pouvoir faire aboutir cette édition 2020. Et puis l'objectif de notre société, nous, c'est avant tout mettre des gens sur un vélo et qu'ils se fassent plaisir. Donc c'est pour ça qu'on avançait dans ce sens-là. Et donc lorsque le Tour de France a annoncé donc justement le maintien de l'événement et puis ces nouvelles dates. Donc, on a pu se positionner sur le week-end du 24 au 27 septembre, sachant que donc à Villars, le Tour de France aura une arrivée le 15 septembre, du coup, le
D'accord.
mardi 15 septembre.
Et bon, tout ça c'est pardon. Tout ça c'est magnifique, l'événement va avoir lieu et maintenant on va pouvoir parler des deux épreuves gravel, enfin en tout cas gravel et bikepacking, même si il y a une étape en gîte. Est-ce que c'est votre première expérience en gravel ou est-ce que vous avez tenté, est-ce que vous avez expérimenté des formats par le passé? Avant d'aboutir à ces formes-là qui sont, on le verra après, extrêmement abouties et extrêmement intéressantes, de mon point de vue en tout cas.
Donc nous, sur le Vélo Air Festival, on avait lancé il y a 2 ans ce qu'on appelait la graveleuse, donc qui était une épreuve sur 100 km, enfin sur ouais, 90 km, pardon, mais qui était un format unique sur une seule journée avec des segments chronométrés. Il y avait 3 segments chronométrés, donc c'était une première qui a plutôt bien fonctionné. Le circuit a plu, puisque comme je l'ai dit, nous, le territoire s'y prête vraiment, que ce soit avec la Via Vercors, les pistes forestières, les pistes de fond, les routes oubliées. Enfin, c'est vraiment un territoire magnifique pour cette pratique. Malheureusement, pour des raisons internes, enfin, et plutôt de ressources humaines, on n'a pas reconduit en 2019. Pour mieux se relancer en 2020, parce que c'est vraiment une pratique qui nous tient à cœur, et puis qu'on souhaitait mettre en place sur l'événement, parce que c'est une pratique aussi qui permet d'aller un peu au-delà de ce qu'on fait avec le VTT, et qui nous permet de voir d'autres choses, d'autres paysages, d'autres lieux. C'est une pratique aussi qui permet la rencontre, l'échange, et c'est vraiment comme ça qu'on l'a créé, puisque là il n'y a pas de format compétition. On a proposé du coup 3 formats avec un format donc la Gravel Camp Hutchinson. Donc là c'est un format sur 2 jours avec 2 étapes et une nuit en gîte d'altitude 2 étoiles. Il y aura même une petite piscine pour ceux qui veulent se baigner et se rafraîchir. Il y a également donc la formule Gravel Relais. Donc là c'est sur une journée, mais c'est-à-dire que on découpe les 160 km en 2 étapes. Donc il y a un premier relayeur qui va faire les 90 premiers kilomètres et le second les 70 derniers, et on a la formule Gravel Ultra pour les plus énervés et ceux qui aiment les longues distances. Donc là, avec les 160 km à réaliser dans la journée, donc tout ça sur un même parcours, hein, pour ces 3 formats, et un parcours de 100 miles et 4200 mètres de dénivelé. Donc il faut savoir qu'on est en montagne, donc forcément il y a du dénivelé. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'accessible.
Donc, qui a eu cette brillante idée de d'appeler cette première édition la Graveleuse ?
La Graveleuse, ça s'est fait tout simplement... en interne, on était 2-3, et puis on aime bien les blagues graveleuses, tu vois. C'est pour ça peut-être que c'est venu.
D'accord. Ah bah donc ça on peut dire que c'était une idée de génie en tout cas. Bien. Juste avant qu'on poursuive, parce que là tu l'as dit un petit peu, donc l'ultra et ses différents formats, et le bike camp, c'est donc sponsorisé par Hutchinson, et par Intégrité, je me dois de préciser que moi je suis pas sponsorisé par Hutchinson, mais par contre je roule sur les pneus depuis fin décembre. J'ai testé le nouveau Touareg depuis fin décembre et je roule dessus depuis. Et je suis fourni en pneus par Hutchinson. Donc, mais aussi à la fois parce qu'on me les fournit, mais aussi parce que finalement les produits me conviennent. Donc voilà, il fallait vraiment que je précise ça. Pareil pour le vélo tout à l'heure, mais je pense que maintenant tout le monde, beaucoup le savent. Toi, t'as choisi d'équiper un Scott. Moi, j'ai un partenariat avec Scott. Donc, ce qui fait que je suis équipé de la tête aux pieds par Scott. Et ça me paraît important de préciser ça, justement. Parce que j'ai pas envie de devenir un arbre publicitaire qui dit du bien des produits parce qu'on les lui prête, simplement ça. Donc je les utilise parce que ils me conviennent, et si c'était pas le cas, je les utiliserais pas. Voilà. Donc ceci étant dit, on va maintenant pouvoir parler de, on va commencer par l'ultra. Donc tu m'as dit il y a trois formats, c'est ça?
Oui, tout à fait, 3 formats. Donc enfin dans l'ordre, on décline toujours de cette façon-là. Donc le Gravel Camp Hutchinson, le Gravel Ultra Hutchinson, et puis également le Gravel Relais Hutchinson. Donc sur la formule ultra, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une formule pour les personnes qui aiment le longue distance. Elle a été aussi imaginée sur de la semi-autonomie, puisqu'il y aura deux ravitaillements en tout avec celui de l'arrivée, mais il y aura un seul ravitaillement au milieu de cette épreuve-là, avec sinon des points d'eau qui seront indiqués sur l'itinéraire. Même chose au niveau du balisage, on va être sur un guidage 100% GPS. L'idée, c'est vraiment que les gens soient dans une optique de d'aventure, comme s'ils partaient entre potes en week-end rouler, se faire une longue balade. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Et puis bah, là, ils vont partir explorer justement tout le massif et le plateau du massif du Vercors, avec vraiment des endroits exceptionnels en altitude. On s'était dit, mais il y aura un ou deux portages, des courts portages. Hein. Enfin, c'est des portages qui font pas plus de, enfin entre 5 et 10 minutes grand maximum.
Cool.
Donc c'est pour ça que là, il faut quand même plutôt être équipé de chaussures type VTT et non de pédales de route et de chaussures de route.
Oui, c'est important de préciser. Ouais.
Et après, bah, on pourra rentrer un petit peu dans le détail aussi de l'équipement, mais forcément, comme je disais, on est en montagne, alors c'est pas de la haute altitude, mais on est quand même sur un parcours qui fait 160 km, il y a plus de 4000 mètres de dénivelé, donc il faut prendre en compte la fatigue, le fait de pouvoir s'économiser aussi sur certaines parties, donc il faut que le poids du vélo soit adapté, le choix des braquets également. Donc c'est vrai que ce que je conseillerais, ce serait plutôt d'être en double plateau, même si je sais que beaucoup maintenant sont partisans du monoplateau, et moi le premier. Donc maintenant, voilà, enfin, évitez de partir sur un 40 dedans, à moins que vous ayez vraiment la caisse et les grosses cuisses, mais essayez d'adapter quand même vos braquets justement au territoire de montagne.
Donc, je reviens juste sur un truc. Tu m'as dit le parcours ne sera pas balisé et sera entièrement sur GPS. Donc, j'applaudis dès demain parce que j'adore cette formule. Qu'est-ce qui vous a poussé à agir de la sorte ?
Bah, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Nous, c'était ce qui avait fait qu'on n'avait pas pu reconduire aussi la graveleuse. En 2019, c'était des contraintes de ressources humaines. Donc forcément, si derrière il y a du balisage, ça implique des équipes aussi de balisage en plus. Mm-hmm. Je trouve aussi que du coup, on est peut-être moins attentif à ce qui se passe autour de nous. Et notamment, ça nous incite à rouler encore plus vite quand il y a du balisage. Là, au moins, on se concentre un peu sur le GPS, on regarde ce qu'il y a autour de nous. C'est une autre façon de rouler et qu'on veut aussi expérimenter parce que c'est vrai que dans le gravel, ça se met en place, c'est très tendance. Mais pourquoi pas aussi arriver à ce genre de formule sur prochainement sur les randonnées VTT. Alors, on est conscient que tout le monde n'est pas équipé d'un GPS ou d'un smartphone qui puisse le faire. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une alternative qui est vraiment géniale.
C'est vrai que là, tu viens de le dire, culturellement, dans le VTT, c'est balisé. Même de manière sommaire, c'est un petit peu balisé. Et c'est étonnant que dans le gravel, c'est... Alors, en tout cas, en France ou en Europe, on fonctionne de cette manière-là. Mais ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Mais par contre, culturellement, ouais, c'est pas trop dans le VTT. Et ça va peut-être couiner un petit peu, éventuellement, au début.
Oui, bon après là on est sur une pratique spécifique. Après de plus en plus de personnes s'équipent quand même d'un GPS maintenant puisque la plupart d'entre eux récupèrent des parcours sur différentes plateformes de téléchargement sur lesquelles les gens peuvent échanger des parcours. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de bases VTT avec du balisage, il est quand même toujours bien d'avoir en parallèle la trace GPX en plus sur son appareil de navigation, puisqu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une flèche ou une signalétique qui soit enlevée.
Un petit peu de vandalisme, de malveillance, comme on peut le voir de plus
oui,
en plus.
Oui, ou d'usure, enfin voilà. Donc, ouais. Et puis comme je dis, enfin moi ce que j'apprécie vraiment là-dedans, c'est que c'est un peu aussi une sorte de laboratoire, voir comment les gens vont adhérer au concept, et puis c'est être plus attentif à ce qu'on a autour de soi.
Sur la formule ultra, donc là, tu as commencé à parler un petit peu des braquets, etc. On va reprendre tout depuis le début. Sur la formule ultra, parce que c'est finalement la plus longue, la plus dure et la plus exigeante, celle qui va demander le plus de préparation. Sur la formule ultra, à quelle heure est le départ ?
Donc, sur les trois formules, le départ se fera à 11h. Et donc là, pour des raisons logistiques, donc là, le départ se fera le jeudi 24 à 11h depuis le centre de Villars, donc c'est-à-dire que les inscriptions là spécifiquement pour le gravel seront donc dans le nouvel office municipal de tourisme au cœur de Villard-de-Lans, dans le village. Et le départ pour les trois formules sera à 11h.
L'heure a été déplacée, je suppose, pour des raisons évidentes de coucher de soleil, parce que si la date de début juin avait été maintenue, je crois que c'était 14h.
Oui, c'était 13h initialement le départ. Donc, sachant que là, oui, on est sur fin septembre, bah, les journées raccourcissent. Donc, on l'a avancé. Mais il faut savoir que c'est la particularité aussi de cette version ultra, c'est que l'arrivée se fera, quoi qu'il en soit, même pour le premier arrivé, de nuit. Et c'est ce qu'on souhaitait. C'est vrai que c'est un peu l'originalité du concept, c'est que d'habitude, les épreuves peuvent commencer de nuit, mais ne terminent pas forcément de nuit. Et là, l'idée, bah, c'était plutôt de terminer de nuit.
Donc, on va partir à 11h. Ça veut dire qu'il faudra prévoir un éclairage pour la fin d'épreuve. Tu as dit, il y a un ravito, je crois, au kilomètre 90, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, il y aura un équipement obligatoire, hein, que ce soit textile réfléchissant, éclairage avant et arrière. Donc de toute façon, on fera un contrôle de ce matériel obligatoire avant le départ. Et puis, oui, comme je l'ai dit, il y aura quand même un ravitaillement intermédiaire où les personnes pourront refaire le plein, que ce soit en eau, mais aussi en solide. Et il y aura même un repas chaud où ils pourront se poser. Donc après, chacun gère après son temps comme il le souhaite. Mais l'idée, c'est quand même que voilà, il y a une petite base de vie. Avant de repartir pour la seconde partie, sachant qu'il y a quand même il y a même plus de dénivelé sur la seconde partie qui fait 20 km de moins. Donc on attaque une partie quand même physiquement aussi intense sur la seconde partie.
Justement, le parcours, tu me l'avais décrit quand on s'est appelé pendant le confinement. Est-ce que tu peux reprendre un petit peu à quoi va ressembler le terrain, le sol? Évidemment, il y a 4000 de dénivelé, donc on se doute que ça va monter, mais est-ce que ça va être de la montée sur des cailloux instables? Ça va être comment?
Non. Globalement, on va vraiment être sur des choses vraiment accessibles, pas trop techniques. On va avoir du sentier ludique plutôt sur la fin du parcours, mais déjà, on va commencer par la Via Vercors, qui est vraiment très connu sur le plateau du Massif du Vercors et qui se prête vraiment à la pratique gravel. C'est une sorte justement de gravette, hein. Ce sol blanc là qu'on peut revoir si vous venez à Villars ou sur les communes alentours, vous verrez justement cette grande voie blanche là qui traverse tout le plateau. Donc vous allez commencer par cette voie là. Après vous allez monter donc sur les hauteurs. On va aller du côté de la Molière, donc là où passait également la graveleuse il y a 2 ans. Donc là, on va emprunter des sous-bois, une vieille route oubliée avec une vue magnifique sur tout Autran. Après, il va y avoir des passages en altitude là, c'est plus des pâturages. Et après, on va redescendre plus sur des pistes de fond, des pistes forestières, donc avec des parties un peu plus roulantes, avec plus de vitesse. Et puis après on va revenir un petit peu en altitude avec là des passages plus techniques et ce fameux portage avant d'arriver justement au gîte, donc on tient secret puisque le parcours comme le gîte on ne le dévoilera qu'au dernier moment. L'idée c'est de garder un peu tout ça secret. Et puis pour la deuxième partie de l'épreuve, là, on va avoir des très beaux passages magnifiques au niveau des gorges de la Bourne. Donc là, c'est en plus des passages routes. Et après, on va basculer vraiment sur des choses qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les épreuves VTT du Vélo Vert Festival avec des passages en balcon, mais toujours sur des zones vraiment accessibles pour le gravel et pas trop techniques. Donc ça, c'est nous pour le moment, c'est notre vision, puisque à côté sur l'événement, si les gens veulent faire vraiment du technique, des grosses descentes, il y a du VTT. Là, nous, notre approche, c'est plutôt faire des choses un peu plus accessibles, roulantes, et qui nous permettent d'aller plus loin sur le territoire aussi.
Donc faire un mélange de finalement diminuer un petit peu le niveau technique, mais augmenter le kilométrage finalement qui est permis par la nature même du vélo finalement.
Tout à fait, tout à fait. Qu'on exclut en rien les VTT, c'est-à-dire que là c'est vrai que cette épreuve est intitulée Gravel Ultra Hutchinson, mais vous pouvez aussi bien également venir avec un VTT, un vélo de cyclocross, un gravel, vous venez avec le vélo que vous souhaitez.
Avant de revenir sur ce que tu viens de dire, c'est quoi un passage en balcon? Désolé, moi, je suis pas montagnard. Hein.
Non, ben un passage en balcon, c'est tout simplement un passage. Enfin, celui que j'ai en tête, c'est un passage monotrace avec la paroi rocheuse sur votre gauche et une partie donc avec du vide, on peut le dire, sur votre droite. Alors tout ça reste sécurisé puisqu'on aura là sur cette partie-là des bénévoles aussi pour prévenir. Et puis si certains ne se sentent pas d'y passer, ils pourront descendre du vélo. Mais c'est vraiment des passages qui pour nous sont importants parce que ça permet de voir la richesse du territoire et d'accéder à des choses auxquelles ils n'auraient peut-être pas accédé de façon classique. Quoi. C'est vraiment des passages plus là de en l'occurrence celui-ci de randonnée pédestre, mais qui roule tout à fait et très bien en gravel.
Quand tu dis à l'instant on peut venir avec un VTT ou avec un cyclocross, est-ce que tu recommandes quand même une largeur minimum de pneus, sachant qu'un cyclocross ça va être 32-33. S'il y a des passages cassants, alors évidemment sur les passages roulants 32-33 ça va être la fête, mais sur les passages cassants, est-ce que ça va au bout de 100-120 km, si les parties vraiment techniques arrivent au bout de 6-7-8 heures, est-ce que ça va pas être un petit peu casse-cul, casse-dos quand même d'arriver avec des pneus trop fins? Est-ce que tu recommandes quand même une largeur minimale?
Oui, bah après on peut toujours recommander. Après, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de la finesse du pilotage, du gabarit du pilote. Après, c'est vrai que bah il vaut mieux partir quand même minimum sur du 38, c'est mieux. Là, je l'ai vu sur une sortie récemment avec des amis où on avait quelqu'un qui roulait en cyclocross, donc avec de la dimension 33. Bon, il a crevé trois fois, alors que nous on n'a pas eu de problème. Donc c'est vrai que c'est ça dépend de la nature du terrain, donc il faut savoir qu'il y a quand même un peu de cailloux aussi dans le Vercors, donc ça il vaut mieux l'anticiper. Il faut peut-être mieux aussi prévoir de se monter en tubeless, c'est quand même toujours un petit plus. Il faudra prévoir aussi tout ce qui est kit de réparation, hein, que ce soit mèche ou chambre à air, mais tout ça c'est important de le prévoir sur ce genre de trip longue distance.
Si tu le veux bien, on va faire une petite parenthèse sur le tubeless parce que évidemment ceux qui me connaissent bien savent que j'en ai bavé avec le tubeless et que ça m'a procuré quelques sueurs froides, mais je dois pas être le seul. Est-ce que tu peux revenir toi avec ton expérience du VTT, t'as vu la transition dans le VTT de la chambre vers le tubeless. Est-ce que tu peux rappeler quand même les avantages et les multiples vertus du tubeless?
Le tubeless, le premier avantage déjà, c'est sur les pincements. Moi, c'est avant tout le premier avantage que je lui vois, c'est-à-dire que sur une zone où le pneu va être contraint et qu'on peut avoir ce phénomène de pincement entre la chambre à air, la jante et le pneu, là, du coup, on ne l'a plus puisque il y a une zone d'air, on va dire, entre le pneu et la jante. Donc déjà, on limite tous ces phénomènes de pincement. Ça nous permet aussi de rouler avec une pression de pneumatique un peu plus faible, donc d'avoir un peu plus de confort en tubeless. Mais après, on n'est jamais à l'abri de si on entaille le pneu. De toute façon, on n'aura pas le choix de, même si on a du préventif, des fois ça ne suffit pas. Il faudra forcément remettre une chambre à air derrière. Mais moi, je trouve que pour cette pratique gravel, qui quand même se rapproche un petit peu du VTT, pour moi, enfin du moins avec mon expérience VTT, le tubeless est vraiment adapté.
Ouais. Également, la faible pression, est-ce que ça change quelque chose au niveau de l'adhérence ou du pilotage et des folies que l'on peut faire en descente?
Forcément, puisque plus on va avoir un pneu gonflé, plus le terrain va être fuyant, plus on va rebondir sur les obstacles aussi, puisqu'on aura un peu moins de confort. Donc le fait de baisser la pression, j'allais dire, on peut perdre un petit peu en rendement, mais même pas forcément. Ça dépend jusqu'à combien on descend, quoi. Mais faut de toute façon être entre 2 et 2,5. Après, tout dépend aussi de la section du pneumatique, quoi. Mais c'est vrai que ça, il est important aussi de tester. Et puis de toute façon, la pression forcément va dépendre aussi du poids du pilote. Et tout ça, c'est important de le tester. Et puis aussi en fonction de la qualité du terrain. C'est-à-dire que si vous êtes sur un terrain sec, vous n'aurez pas forcément la même pression que si vous êtes sur un terrain humide, où là, des fois, ils font peut-être encore plus descendre en pression pour que le pneu épouse encore mieux la forme du sol. Et puis, pareil, il faut choisir aussi le dessin du pneumatique en fonction des conditions météo. Ça, c'est essentiel. Sachant que nous, sur le Vercors et sur le circuit qu'on va proposer, un pneumatique tel que j'ai, enfin, l'Override qui a très peu de crampons, peut convenir largement si le terrain est sec. C'est vrai que si ça devient mouillé, c'est déjà plus compliqué. Et du coup, là, le Touareg, en l'occurrence, bon, là, on parle de Chinson. Il y a bien d'autres modèles, bien sûr,
Oui, il faut pas non plus
mais
être.
en tout cas, un modèle un peu plus cramponné peut être un peu plus adapté. Mais je pense que de toute façon, sur ce genre de long trip, il faut choisir la fiabilité avant tout. Puisque là, on n'est pas sur une épreuve et un concept de performance. Donc là, il est essentiel de choisir la fiabilité.
Tout à l'heure, tu parlais peut-être de plutôt partir sur un double plateau qu'un mono. Alors, en l'occurrence, on n'a pas forcément le choix. On a le vélo qu'on a généralement et il est double ou mono. Pourquoi plutôt s'orienter vers un double?
Là, l'intérêt que je vois, c'est plutôt pour s'économiser, notamment dans les montées, et puis pour pouvoir, par exemple, si on a un 31 dents en petit plateau, on passera quand même mieux et moins en force que si on est en monoplateau 36. Ça permet de s'économiser. Et puis après, avec le grand plateau, ça permet peut-être des fois d'enrouler, d'envoyer peut-être un peu plus sur les parties plus roulantes. Après, comme je disais, forcément, on fait en fonction de l'équipement qu'on a aussi. Et moi, je suis plutôt partisan du monoplateau et du minimalisme. Maintenant, pour des personnes qui se lancent et pour une première aventure, des fois, le double plateau peut être plus accessible. Et c'est ce qu'on voit de façon en montagne, hein. C'est vrai que sur route, il y a très peu de monoplateau encore, même si on y arrive petit à petit. Mais on le voit très bien de toute façon, hein. En montagne, forcément, il y a du double plateau et le petit plateau est vraiment adapté à la montagne.
Justement, à l'instant, tu viens de le dire, pour les débutants, est-ce que l'ultra est accessible à un débutant ou est-ce que tu proposerais plutôt les autres formules? Et comment tu conseillerais de se préparer à cette épreuve qui va quand même pas être mince, finalement, 160 km et 4000 de dénive. Alors même si c'est roulant, c'est quand même pas rien, 4000 de dénive. Comment tu conseillerais de se préparer, sachant que là, ça va être fin septembre, qu'il y aura la rentrée scolaire, que les jours vont un petit peu raccourcir, que la météo ne sera pas toujours là. Qu'est-ce que tu conseilles comme préparation ou au moins comme deux, trois sorties clés pour arriver à cette épreuve dans de bonnes conditions?
Alors déjà pour répondre à ta première question, c'est vrai que pour les débutants et ceux qui vont aller vers une première expérience gravel, je conseillerais davantage de choisir la formule camp ou la formule relais, puisque c'est vrai qu'après s'aventurer sur 160 km, là on est plus du tout sur le même type d'effort. Maintenant après sur une préparation, enfin que ce soit pour l'un ou pour l'autre, hein, forcément, il va falloir allonger les sorties petit à petit. Là, on est plutôt sur une phase de reprise, hein, sur ce mois de juin. Donc, c'est commencer à allonger les sorties, aller sur des sorties qui fassent 4-5 heures au mois d'août, si vous le pouvez. Et puis après, c'est des fois aussi, peut-être. Essayer de reproduire un peu cet effort-là, enfin, ou des longues montées, donc des montées de col. Alors, tout le monde n'est pas en territoire de montagne, on n'a pas de col à côté de chez lui, mais des fois, c'est essayer de répéter des efforts dans une montée. D'essayer aussi de rouler sur différents types de terrain. S'essayer, pas uniquement rester sur ses terrains de jeu favoris, mais plutôt des fois, essayer de s'aventurer sur des terrains qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il est essentiel aussi de, si c'est une première fois, enfin pour vous, de vous initier à, du coup, à naviguer avec votre GPS. parce que c'est pas forcément donné à tout le monde et simple au départ. Donc ça, il faut bien s'entraîner là-dessus aussi. Mais après, sur la préparation, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas sur une compétition, donc il faut avant tout déjà se faire plaisir et puis aller petit à petit vers des sorties longues en essayant, ouais, voilà, de mixer les terrains et puis forcément faire aussi de l'ascensionnel, enfin de faire du dénivelé positif.
Quand tu dis faire de l'ascensionnel, essayer de reproduire, alors Julien, je t'aime beaucoup, hein, mais t'es bien gentil, moi j'habite à Chartres, autant te dire que les montées de 15-20 km chez moi, c'est de la science-fiction. Hein. Donc,
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, on habite, enfin voilà, chacun habite dans sa région et a des terrains de jeu différents, mais après ce que je disais, c'est essayer de reproduire l'effort, c'est-à-dire que si tu sais que tu as une montée de peut-être de même 500 mètres, 1 km à côté de chez toi, des fois c'est se faire des séances un peu spécifiques de se faire la montée, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de fois en trouvant à côté une descente un peu plus technique. C'est ce petit genre d'exercice qui permet de répéter et puis de cumuler un peu le dénivelé positif.
Justement, en parlant de passage technique, à quoi vont ressembler les... Alors, j'aime bien ta formule très, très polie, très, très diplomate, de secteur ludique. Ça veut dire quoi? Ça va être du gros single de bâtard?
Non. Non, ludique, c'est où on se fait plaisir, tout simplement, sur des choses qui sont pas... comme je l'ai dit, on va pas être sur des choses avec des racines, du caillou, des marches. Là, nous, notre approche du gravel, c'est vraiment quelque chose de un peu plus lissé, roulant. Et oui, ludique, c'est-à-dire que ça va être un peu sinueux. Si certains ont envie de sauter, un peu de s'amuser, ils pourront le faire, déraper. Enfin, c'est le ludique pour nous, c'est ça. C'est qu'on puisse s'éclater sur le vélo, quel que soit notre niveau et quelle que soit notre vitesse. C'est un peu finalement, j'ai envie de dire, sur un bike park par exemple, une piste bleue, tout le monde peut se faire plaisir. Une piste bleue, elle est ludique, quel que soit son niveau, tout le monde peut se faire plaisir. Là, c'est un peu la même chose.
Est-ce que tu me parlerais un petit peu de la formule Gran Turismo, si on peut dire, donc en 2 jours, donc qui est la même chose, mais sur 2 jours finalement? Pourquoi proposer un truc sur 2 jours comme ça?
Pourquoi? Parce que déjà, c'était la formule initiale qui nous plaisait entre guillemets le plus, qui nous correspond bien chez Vélo Vert. On aime bien être dans le partage, un peu épicurien, voilà, bien manger, passer des bons moments, boire une bonne bière. Et c'est un peu comme ça qu'on voit aussi la pratique. Mais comme je dis, le gravel, ce qui est bien, c'est que il y a vraiment tous les types de pratiques, tous les profils de pratiquants aussi. Et ce côté-là nous plaisait bien et il est forcément plus accessible. C'est-à-dire que là, on peut avoir des profils de pratiquants qui ne sont pas forcément très assidus ou qui font peut-être une sortie seulement dans la semaine. Ça peut passer, donc il faudra peut-être rouler un petit peu plus à l'approche de l'événement. Mais en tout cas, tout ça, c'est possible. Et puis, ce qui a intéressé aussi Sophie et Margot de Hutch, c'était le fait qu'ils puissent avoir aussi de l'interaction avec les participants, donc qui auront la chance de parler justement comment a été conçu un pneumatique, quels sont les produits, enfin qu'il y a de l'interaction aussi entre les participants. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de cette formule là. Et puis le lieu qu'on a choisi est vraiment très sympa, au sommet d'un petit village, avec un... Voilà, on est sur du refuge quand même plus, comme je disais, avec une piscine. Si jamais il fait un petit peu froid, ils pourront se mettre aussi au coin du feu. Mais je suis persuadé que fin septembre, on aura une excellente météo. C'est toujours l'été indien dans le Vercors, donc je suis certain qu'on aura des belles conditions.
C'est Sophie ou Margot ou Sylvie et Margot?
Sylvie. J'ai dit Sophie?
Ouais, t'as dit Sophie, ouais.
Ah non. Excuse-moi, Sylvie, alors.
Je lui ai envoyé un texto, là, je pense que c'est fini avec vous. Hein. Maintenant, ça va être la Panaray sur Gravel. Ouais, juste un petit détail, parce qu'il faut quand même être... Je comprends, évidemment, je comprends tous les aspects commerciaux, techniques et tout, mais ouais, je reviens juste sur les pneus. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir des pneus un petit peu cramponnés quand même. Donc, il faut pas se limiter à une marque ou à un modèle. Certes, le Touareg est vachement bien, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que tu as des idées de modèles en tête ou est-ce que à conseiller finalement? Parce qu'on voit que sur les groupes, la discussion qui revient le plus souvent, c'est tu mets une photo de ton vélo et tu as 10 mecs qui t'écrivent en te disant « Ouais, c'est quoi tes pneus ?» C'est quand même important de donner quelques repères.
Bah, moi, les conseils que j'ai à donner, c'est pas forcément orienté sur un pneu en particulier. Forcément, c'est bien d'avoir quand même un pneu renforcé sur les flancs, parce que comme je disais tout à l'heure, dans le Vercors, il y a beaucoup de pierres, des pierres des fois qui peuvent être un peu saillantes aussi. Donc ça, c'est un plus. Pour moi, le fait d'être en tubeless, bah, c'est encore un plus. Et puis forcément, avoir un petit peu de crampons. Alors c'est pas Là, on va, comme j'ai dit, c'est quand même un parcours relativement roulant, donc on n'a pas besoin d'extrêmement de beaucoup de crampons. On peut rester sur quelque chose de relativement soft, mais après c'est bien d'en avoir parce que notamment sur la deuxième partie du parcours où on peut mettre un petit peu plus d'angle ou dans certaines descentes, bah, il est bien d'avoir un peu de crampons, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Mais après, j'ai pas de modèle précis à conseiller. Je pense que ça, c'est les trois points principaux. C'est un peu de crampons, des fois renforcés, et puis idéalement, bah, passer en tubeless. Et après, sur la section, on en a parlé tout à l'heure, mais après, en 38-40, c'est bien.
Tu as souligné un détail qui est quand même important, c'est la météo. Ça veut dire qu'il faudra quand même se tenir au courant de la météo et le cas échéant changer de pneu quelques jours avant. Imaginons que comme tu le souhaites on ait un été indien et finalement que 3 jours avant la course il se mette à pleuvoir, il sera peut-être judicieux d'enlever les slicks et de mettre un petit peu de crampons quand même.
Oui, tout à fait, comme tu le dis, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, sur l'aspect pneumatique, il faut toujours aussi adapter son pneumatique aux conditions météo.
Ouais. Également, on a été coupé, moi j'avais plus de micro, je t'entendais parler du GPS sur l'orientation. Est-ce que ça va être vraiment délicat? Est-ce qu'il va y avoir des secteurs délicats ou est-ce que ça va être, comme on dit, de l'orientation de carrefour où on pourra pas vraiment se tromper? Ou est-ce qu'il y aura quand même quelques secteurs où il faudra bien viser et trouver vraiment le bon chemin?
Non, ça va être essentiellement
sur l'écran, ça va aller.
Ça va être essentiellement de l'orientation de carrefour, même s'il y a des passages, des fois qui seront peut-être plus, enfin, qui demanderont un peu plus de précision. Mais de toute façon, on aura nous une sortie de test avant ça, et je pense que sur certaines zones, peut-être un peu plus complexes.
Ouais.
Là, il y aura peut-être un petit peu de signalétique, et il faut savoir que de toute façon, pour la sécurité aussi de l'ensemble des participants, il y aura 8 points de contrôle en tout sur le parcours. Donc là, c'est des contrôles pointage, comme ça permet nous, en tant qu'organisateurs, de savoir où en est l'épreuve, et puis ça peut permettre aussi aux proches de suivre l'évolution de leurs proches. Ouais.
Vous attendez environ combien de participants sur l'Ultra, par exemple, ou sur l'ensemble des épreuves gravel que vous allez proposer?
Là, donc, la version camp est limitée à 60 personnes, donc il reste encore quelques places, et les inscriptions, de toute façon, sont ouvertes. Et après, donc, sur les deux autres versions, là, on est limité à 200 entre l'Ultra et la formule relais.
Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter?
Non, si les personnes sont intéressées par cette épreuve-là, ils peuvent se rendre sur le site du Vélo Vert Festival, donc vélovertfestival.com, et puis on pourra répondre à toutes leurs questions, toutes leurs interrogations. Il y a toutes les infos pratiques, les horaires, le matériel obligatoire, les tarifs. Donc on reste à leur disposition et puis on espère surtout qu'ils vont passer un bel été sur le vélo pour se préparer pour notre épreuve, mais pour d'autres épreuves aussi. Et puis profiter du gravel.
Moi, j'ai drôlement hâte d'y être, en fait. Je t'avoue que je trépigne un petit peu d'impatience parce que pour avoir assisté à l'édition 2019 et avoir roulé un petit peu dans les temps morts, dans les alentours, j'ai vraiment, vraiment hâte de prendre le départ de votre épreuve. Même si elle n'est pas chronométrée. Petite parenthèse, encore une. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas faire une épreuve chronométrée? Est-ce qu'éventuellement, à l'avenir, on aura le plaisir de mettre un dossard?
Ben, c'est vrai qu'en 2018, on avait pris l'option de faire une formule chronométrée avec des segments chrono. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Maintenant, on avait vu aussi que ça avait rebuté certains, le fait qu'il y ait la formule chrono, parce que ça nécessite aussi un certificat médical ou une licence. Là, on est vraiment parti dans une autre optique. On sait qu'on a déjà beaucoup de compétitions. Là, on était plus dans l'optique aventure, semi-autonomie, découverte. Maintenant, il n'est pas exclu que ça évolue dans les années à venir. Hein. Mais là, pour cette année 2020, ce sera sur cette formule-là, sachant que bon, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que là, l'épreuve va se dérouler jeudi et vendredi, mais ça laissera aussi tout le temps à ses participants de profiter du salon et de l'événement sur tout le week-end. Et comme je le répète tout à l'heure, il y aura également des vélos gravel à tester sur le salon avec un parcours spécifique. Donc c'est tout l'intérêt de cet événement.
Et toi, à titre perso, comment tu vois ta pratique dans les semaines et mois à venir? Qu'est-ce que tu planifies quelque chose, un trip quelconque, une autre épreuve? Tu vas faire quoi, toi, avec ton beau vélo?
Là, moi, avec mon beau vélo, c'est plutôt des sorties. Là, tu vois, il est resté en Bretagne. Et du coup, ce sera plutôt des sorties entre potes avec mon club breton, justement. Mais il n'y a pas de trip prévu pour cette année, parce que j'ai d'autres échéances et pas forcément dans le vélo. Donc là, pour le moment, c'est vraiment se faire plaisir. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est aller explorer des nouveaux coins. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment l'intérêt du gravel, c'est de pouvoir aller explorer des nouvelles choses. Et on voit que ça prend vraiment. Hein. Et là, il y a 2 semaines, je suis tombé sur un groupe qui m'avait invité parce que justement, ils se mettent au gravel, ils ont créé un parcours autour de chez eux. Et on voit que ça plaît. Et pourtant, à la base, c'était des routiers. Et on voit que ça plaît vraiment. Et c'est le terme que j'utilise, mais il y a ce côté ludique où sur les segments gravel, on peut aussi se faire plaisir et se tirer la bourre si on tombe avec des coursiers. Enfin, c'est vraiment sympa. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça qu'on le pratique par chez nous, en tout cas.
Ouais. Quand est-ce qu'on roule ensemble?
Et ben, quand tu veux.
Il faudrait déjà que tu ramènes ton vélo, parce que je te le dis sans méchanceté, mais je mettrai pas les pieds en Bretagne. Voilà. Quand tu parles
C'est pour
d'échéances à venir,
ça.
j'ai l'impression que la famille va s'agrandir, parce que quand on dit ça, ça fait soit
Ah
je me
non, non,
marie,
non,
soit je vais avoir un enfant, soit je retape
ça
une
grandit
maison.
parce que, en fait, voilà, c'est ça. On retape une maison et là, il faut que ça se termine. Donc, ça prend pas mal de temps.
D'accord.
Mais sinon, je t'invite ici quand même à venir en Bretagne parce qu'avec notre club, on organise ce qu'on appelle le Heroes Charity Ride, qui est en faveur de la Movember Foundation. Et donc on a un parcours gravel de 80 km et après on a 3 parcours plus route, mais avec 20% de zone gravel, avec un 40, 70 et 100. Et ça, c'est début septembre, le 6 septembre à Binic. Donc ça peut être l'occasion de venir rouler en Bretagne.
Alors, pas toutes les émotions d'un coup, parce que en fait, je vais venir donc faire l'ultra du Vélo Vert Festival le jeudi, et le samedi, je serai à Rennes pour le départ de la Gravel Trobraze.
Ah ouais, bon,
Donc,
ok. Bon, bah tu vas avoir du pays alors du coup.
ouais, donc pas toutes les deux, la Bretagne deux fois dans le même mois, tu vois, ça me paraît un peu trop pour moi. Donc,
Ok,
on va
ça
terminer
marche.
sur un truc, parce que je vois là, en fait, t'as rallumé la visio depuis tout à l'heure, et t'as deux dossards derrière toi. Et quand on affiche deux dossards dans son salon, ça veut dire que ces deux dossards-là ont une signification particulière. Le 228 et pousse-toi un petit peu vers la droite.
Parce que je te vois plus, moi. Ouais, mais c'est
Ouais, mais
normal, je te vois pas.
derrière toi, c'est
Ouais,
quoi? Le
228
214
et le
et le
214.
214, c'est quoi alors?
Alors, je pense que, enfin, le 228, c'est sûr, c'est ma dernière course entre guillemets, puisque c'était l'année dernière, donc je suis allé faire l'Ultimate Challenge. Donc, faut savoir que dans l'Utah, enfin, il y a le Tour de l'Utah, qui est un tour cycliste pro. Et donc les organisateurs font un peu comme l'étape du tour finalement. Donc là on faisait la même étape que les pros en partant le matin avant eux. Et là c'était 160 km, donc c'était le dernier dossard voilà que j'ai mis. Et le 214 c'était aux États-Unis également sur la Donnyville Classic, qui est une épreuve assez particulière VTT avec un challenge sur 2 jours, donc une première étape cross-country le samedi. Et le dimanche après, en fonction du classement du samedi, c'est plus une épreuve enduro en ligne. Donc ils font des départs en fonction du classement de la veille. Donc là, c'est deux dossards US.
Est-ce que justement ces épreuves et ces formats un petit peu exotiques, ça nourrit ta réflexion sur ce que vous allez proposer au Vélo Vert Festival? Varier les formats, varier les formules de faire des mix entre départ en ligne, départ chrono. Est-ce que ça nourrit un petit peu toute la réflexion?
Ah bah oui, forcément. Et on a toujours été toujours à l'écoute et en veille aussi du marché, notamment aux États-Unis, parce que chez nous, Christophe, notre DG, Christophe Jobic, est très attentif à ce qui se passe là-bas et c'est vrai qu'il nous a donné un peu ce virus là aussi. Et moi, j'aime beaucoup ce qui peut se faire là-bas et ce genre de profil. Et c'est aussi ce qu'on veut faire passer en termes d'ambiance sur le Vélo Vert Festival. C'est pour ça qu'on a des formats un peu spécifiques. J'en parlais, la Street Race. On a l'Electric Race Lapierre aussi, qui a vraiment un format un peu type MTB Eliminator qui est sympa. Sur l'enduro, on fait des départs deux par deux toutes les 20 secondes. Enfin voilà, on essaye vraiment de mixer, de varier les concepts. Et puis c'est vraiment ce qui est riche en termes d'événementiel, c'est qu'on peut aussi se permettre de faire beaucoup de choses et d'essayer beaucoup de choses.
Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, mais toi tu vas pas t'arrêter, moi je vais poser mon micro, je vais te laisser pour la minute de solitude, parce que je te l'avais pas dit.
Oula.
Alors autant je commence tout de suite la conversation, tu vois, quand on appelle et que tu décroches, j'enregistre dès le début, donc je garde tout.
Mais je viens déjà de parler pendant 2 heures là, attends.
Non, quasiment un petit peu plus d'une heure seulement, donc moi je vais poser mon micro, je vais aller boire un café. Et toi, tu vas faire passer le message de ton choix. Je te laisse une minute, tu dis ce que tu veux, tu peux couper ta caméra si tu veux. Et puis, quand tu as fini, tu raccroches. Ça roule ?
Ok, ça marche.
Ça te met mal à l'aise. Hein ?
Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ?
Alors, pour info, il y a des mecs qui n'ont rien dit. Il y en a qui ont raccroché. Et il y en a qui ont raconté plein de trucs. Il y en a même un qui a bruité sa chaîne qui grinçait sur une épreuve. Donc, il va falloir faire preuve d'imagination un petit peu. Donc, tu as une minute. Bon, mon petit Julien, en tout cas, merci beaucoup.
Merci à toi, Richard.
Merci pour tout, pour toutes les infos. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller rouler un de ces quatre. Et puis, sinon, on se voit en septembre. Voilà.
Ça roule.
Allez, bonne chance pour ta minute. À très bientôt. Merci.
À bientôt. Salut. En direct du concert Roulib. Donc, bonne sortie à tous et puis merci encore à Richard et Spotsbleu. À bientôt.